Le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens, qu'elle eut bien volontiers lors d'un service de la parole de Dieu, lors d'un ensevelissement, nous montre combien l'apôtre parle d'une façon saisissante, personnellement réalisée par lui, si notre maison terrestre, voilà ce corps qui n'est qu'une tente, et comme le dit un de nos nouveaux cantiques, une tente fragile est détruite. Nous avons alors un édifice de la part de Dieu, une maison qui n'est pas faite de main, éternelle dans les cieux. Cette maison-là est inattaquable. Et puis l'apôtre continue en parlant de ce fait que dans cette tente nous gémissons. Et un peu plus loin, il dit, nous gémissons étant chargés. Mais alors, ses regards sont dirigés vers cette maison, cet édifice éternel, vers ce corps glorifié que tout croyant connaîtra au jour de la venue du Seigneur Jésus. Et puis, il dit bien, nous ne désirons pas être dépouillés, nous n'attendons pas la mort. Ce que nous désirons, c'est d'avoir, d'être revêtus, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et finalement, il parlera du fait d'être présent dans le corps. Nous sommes encore en vie sur cette terre, et alors être absent du Seigneur. Mais si la mort devait survenir, ou ce qui serait bien préférable, que le Seigneur vienne, alors nous serons absents du corps, nous serons présents avec le Seigneur. L'apôtre, il a été donné par l'Esprit de Dieu à l'apôtre de nous parler de ce magnifique contraste entre le corps d'abaissement d'une part et puis le corps de la gloire de notre Seigneur d'autre part. Selon ce pouvoir ou cette puissance qu'il a de s'assujettir même toute chose.
Dans la même épître aux Corinthiens, dans le chapitre 4, pour le corps d'abaissement dans lequel nous nous trouvons, lié à toutes les infirmités qui découlent de son appartenance à cette vieille création où les conséquences du péché sont inévitables, l'apôtre dit, nous avons un grand trésor, la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Christ, dans un vase de terre. Peut-on trouver symbole plus marquant, plus significatif pour exprimer ce que sont nos pauvres corps actuels, vases de terre? Mais par contraste, nous aimons rappeler ce que nous trouvons dans l'Ancien Testament à l'égard d'autres vases. Et il semble que le verset que nous allons citer établit un contraste si précieux entre le pauvre vase de terre qui représente notre corps aujourd'hui et ce que nous serons demain. Au jour de la restauration, lorsque le résidu est remonté de Babylone, on a rapporté de Babylone les ustensiles du temple de l'Éternel. Et dans le chapitre 7, chacun pourra le lire en détail, on apporte alors deux vases, est-il dit, deux vases d'airain. Au lieu d'un vase de terre, un vase d'airain, ce qui nous parle d'un métal robuste qui ne peut être brisé. Peut-être aussi une relation avec le fait que l'autel d'airain, la mort de Christ, et la base sur laquelle tout sera restauré, y compris notre corps. Mais il est ajouté deux vases d'airain d'un beau brillant. Et ensuite, précieux comme l'or. Un vase d'airain d'un beau brillant, précieux comme l'or. Quel contraste avec ce pauvre vase de terre. Et cette image de l'Ancien Testament est faible à l'égard de ce que nous serons. Lorsque nous le verrons, dit Jean, nous lui serons faits semblable.
Ici, le verset que nous avons sous les yeux, l'accent est mis sur la transformation. Sur la transformation qui transformera le corps de notre abaissement. Notre corps ne sera pas détruit. Notre corps n'est pas détruit. Sans doute, il est bien dit, notre tente, la tente sera détruite. C'est un autre aspect du sujet. Mais c'est ce corps lui-même qui sera transformé. L'être demeure. La créature demeure. Nous resterons une créature humaine. Mais notre enveloppe présente sera transformée. L'image, elle nous est donnée dans la parole, n'est-ce pas? C'est l'apôtre Paul lui-même au chapitre 15 et qui nous la donne avec le grain de blé qui tombant en terre. Le Seigneur dit aussi, il meurt et il disparaît en tant que grain, mais la semence jetée en terre donne alors le blé et d'autres semences donnent d'autres plantes, mais c'est toujours la même plante. C'est comme la métamorphose d'un insecte, n'est-ce pas? Passant du ver à la chrysalide, au papillon, mais c'est toujours le même individu. Notre corps, c'est pourquoi il nous est interdit de mépriser notre corps. Et qu'il nous sommes exhortés au contraire à glorifier Dieu dans notre corps. Dans quelle mesure le faisons-nous? C'est à chacun de nous à voir cela. Nos corps sont rachetés, aussi bien que nos âmes. C'est pourquoi dans le chapitre 8 des Romains, il est parlé de la délivrance de notre corps. Non pas que nous soyons délivrés, nous, de notre corps, mais c'est notre corps qui est délivré. Nous attendons l'adoption, la délivrance de notre corps. Et ce sera à la gloire de Dieu, à la pleine gloire de Dieu, n'est-ce pas? Selon la puissance de ce Sauveur, selon ce pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose.
Et ce titre de Sauveur est donné au Seigneur en relation avec ce salut final. Il est précieux à cet égard de rapprocher trois passages. Dans le premier chapitre des Romains, nous avons la puissance liée au salut initial, le salut de l'âme, l'évangile qui est la puissance de Dieu à salut à quiconque croit. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, verset 5, nous avons le pouvoir lié, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut. C'est le salut de la course. Et puis ici, nous avons le salut final, Jésus-Christ comme sauveur. Et alors, c'est selon ce pouvoir, également là, le pouvoir, la puissance, le mot original, le même mot original, dynamique, n'est-ce pas, la puissance.
Dans les trois passages, c'est en effet le même mot. Dans les trois passages, notre frère rappelle, c'est le même mot, quoique notre traducteur ait jugé bon de traduire par le mot pouvoir, peut-être plus expressif que l'autre, nous ne savons pas. Mais nous voulions encore poser cette question. N'est-ce pas un peu la même chose? Au début du mystère de 1 Corinthiens 15, l'apôtre dit, nous serons tous changés. N'est-ce pas cette pensée du changement, comme il y a en Philippiens 3 la pensée de la transformation? Alors après, l'apôtre va parler de ceux, les croyants, qui sont endormis, qui ressusciteront, de ceux qui sont encore en vie et qui seront transmués. Mais il dit à tout d'abord, il faut que nous soyons tous changés. Le changement, c'est la pensée première de ce mystère, comme la pensée de la transformation se trouve dans notre passage de Philippiens 3.
Il y a trois vérités liées à la question du corps. Et dans ces passages que nous avons présentés, liés à notre vie ici-bas, nous avons à revêtir le caractère céleste. Notre corps est une tente. Abraham n'avait qu'une tente et qu'un autel. Quand cette vérité est ainsi présentée, notre corps est présenté comme une tente. Dans le second passage que nous avons lu, il est question du service. Nous avons à servir le Seigneur. Et notre corps est un vase dans lequel la puissance de la grâce et de l'Esprit agit, opère pour accomplir le service qui nous est confié. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire qu'il avait ce trésor et son ministère dans un vase de terre. Le Seigneur savait briser en son temps, en sa manière, ce vase pour que la vie divine puisse être manifestée. Mais nous ne sommes pas toujours d'ici-bas. Nous sommes sauvés en espérance, mais nous sommes du ciel. Or, pour atteindre la perfection, pour atteindre la gloire, il nous faut des corps glorieux. C'est pourquoi nous serons tous changés, tous changés. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alors nous serons tous changés et nous atteindrons ainsi la gloire. C'est pourquoi ces trois vérités sont précieuses devant nous et doivent caractériser notre marche. Nous sommes en détente, nous sommes donc célestes, nous avons à servir le Seigneur et nous avons à attendre la gloire que le Seigneur nous donnera en nous donnant des corps semblables aux siens. Là, on peut dire dans un sens que la position du chrétien maintenant est, comment dirais-je, anormale. C'est pas normal. D'un côté, par sa vie divine, par le Saint-Esprit, par tout ce qu'il a reçu de Dieu, il est lié au ciel. Et d'un autre côté, par son corps, il est lié encore à la vieille création. Et alors nous attendons ce moment où le Sauveur nous délivrera enfin et nous introduira avec des corps glorieux semblables aux siens dans cette perfection où il se trouve lui-même.
En attendant, il y a un travail qui se produit dans le croyant. Si nous le lisons dans le chapitre 18 du livre de Jérémie, nous voyons le potier qui a fait un vase de terre, mais ce vase de terre n'était sans aucune valeur. C'était de l'argile. Et puis il en fit un autre, et comme il plut aux yeux du potier de le faire. Et la parole de l'Éternel vint à moi disant à Jérémie, « Ne puis-je pas faire de vous comme fait ce potier, ô maison d'Israël ?» Ainsi, il y avait pour le peuple d'Israël un travail qui s'opérait de jour en jour. Eh bien, nous pouvons penser que déjà, il y a une préparation pour nous, pour que nous puissions enfin atteindre ce développement glorieux dans le ciel, c'est-à-dire être rendu conforme et dans un vase parfait, conforme à Christ.
Entre les deux étant que le travail est un travail progressif, continuel, qui ne cesse pas, tandis que la transformation sur laquelle notre attention est fortement attachée en ce verset des Philippiens est une chose instantanée. L'opération de ce pouvoir fera tout en un clin d'œil. Cela rend d'autant plus merveilleux et ce pouvoir et le fait même de la transformation opérée. Il a le pouvoir de s'assujettir toute chose, lui qui est la résurrection et la vie.
Cantique 74.
cantique 98. 98, strophes 3 et 4. Épître aux Philippiens, chapitre 4. Ainsi donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, bien-aimés. Je supplie Évodie et je supplie Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris, et reçu, et entendu, et vu en moi, faites ces choses, et le Dieu de paix sera avec vous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi, quoique vous y ayez bien aussi penser, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi, j'ai appris à être content moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim. Aussi bien être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toute chose en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction.
Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois, et même deux fois, vous avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléera tous vos besoins selon ses richesses en gloire par le Christ Jésus. Or, à notre Dieu et Père soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
Si donc, mes frères bien-aimés et ardemment désirés, ainsi donc, et c'est par conséquent en rapport étroit avec ce qui précède, ce que nous avons pu voir ensemble hier d'une manière particulière, que l'apôtre va entrer dans des faits et des circonstances de la terre, du témoignage, des rapports entre croyants. Après nous avoir, les avoir et nous avoir avec eux, occupés pendant la plus grande partie des deux chapitres précédents de choses infiniment précieuses concernant la personne du Seigneur Jésus, ce qu'il est et doit être pour le croyant, ce qu'il était pour Paul. Rappelons le parfait modèle d'obéissance, de renoncement à lui-même, de bonté. Dans chapitre 2, le modèle, par conséquent, parfait. Et puis, le but glorieux, l'objet de la foi. Celui qui est glorifié dans le ciel, celui vers lequel nous allons. Et la course chrétienne est tout entière, doit être tout entière, ce que l'on pouvait voir dans l'apôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui, bien que ne pensant pas avoir saisi le prix de la course, sans être déjà parvenu à la perfection, poursuivait. Ayant été saisi par le Christ, il poursuivait, cherchant à le saisir. Et c'était la chose, la seule chose qui compta pour lui, et il pouvait dire, soyez tous ensemble mes imitateurs, frères. Et puis, avec une parenthèse douloureuse concernant les plusieurs marchands, non pas selon ce dont l'apôtre Paul donnait l'exemple, mais comme étant, bien que se présentant comme chrétiens, des ennemis de la croix du Christ. Il ne reste pas là, ce n'est qu'une parenthèse, si importante et si douloureuse qu'elle fut pour lui, et avertissement si solennel et si nécessaire pour nous. Il élève alors nos pensées vers ce qui est dans le ciel, et ce qui est dans le ciel, c'est d'une part notre position devant Dieu, c'est notre qualité comme enfant de Dieu, de citoyen déjà du ciel, bourgeoisie et dans les cieux, mais ce qui est dans les cieux, c'est la personne bénie du Seigneur Jésus, présenté alors comme notre espérance, celui que nous attendons. Nous aussi, nous attendons le Seigneur Jésus, appelé sur la terre à porter les caractères que lui a portés dans son abaissement, et ne pouvant le faire que en le contemplant déjà dans la gloire. Nous attendons le moment où il transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. C'est là-dessus que nous avons pu terminer notre entretien d'hier. Il est dans les cieux, celui qui bientôt va venir, celui qui, dont toute la parole parle de la manifestation en gloire un jour, du déploiement de son autorité, de ce pouvoir qu'il a, de s'assujettir même toute chose lui ayant été assujettie par Dieu, et lui-même remettant ensuite tout à son Dieu et Père, pour que Dieu soit tout en tous. Eh bien, s'il est présenté ainsi, si souvent dans la parole, comme celui qui viendra en vainqueur, en dominateur, et pour le jugement des ennemis, pour nous, nous l'attendons non pas sous ce caractère de juge, bien que nous ayons affaire avec lui individuellement et collectivement, comme assemblée, sous ce caractère-là, mais ici, il nous est présenté uniquement, essentiellement, suprêmement, comme sauveur. Sauveur qui accomplira tout ce qui concerne notre salut. Et qui, nos corps étant ainsi à leur tour délivrés, et délivrés par une transformation glorieuse, nous puissions être avec lui toujours, mais dans une jouissance pleine et entière de cette personne qui est dès maintenant l'objet de la foi dans les circonstances présentes et l'objet de notre espérance. Transformée. C'est la même, je rappelle ce que nous disions hier, la personne en elle-même demeure, c'est le même être, mais qui, actuellement, dans cette enveloppe périssable et ce corps d'abaissement, soupire après la délivrance. Mais c'est ce qui sera opéré, c'est le changement de l'enveloppe, l'être lui-même demeurant le même. C'est chaque personne est transformée à la ressemblance, transformée en la conformité. Conformité, c'est plus fort que ressemblance. Nous revêtirons un corps glorieux, conforme au corps glorieux de Christ. Le corps de gloire de Christ. Non pas seulement corps de résurrection, mais le corps dans lequel il est glorifié à la droite de Dieu. Il s'agit évidemment de l'homme glorifiés ne seront conformes. Hein, ça fait conforme, c'est le même mot, à l'image du Fils, trouvons-nous dans le chapitre 8 des Romains. Nous ne serons pas identifiés au Fils de Dieu en tant que Fils de Dieu, mais lui est glorifié comme homme dans le ciel, et nous serons glorifiés de cette gloire. Quelle espérance que celle qui est ainsi placée dans nous. Et ainsi donc, ayant déjà sur la terre de telles ressources, richesses, bénédictions, ayant de tels privilèges, avec ce qu'ils comportent de responsabilité, bien sûr, mais cela n'est pas évoqué dans tout ce qui se rapporte au sein et dans cet épître aux Philippiens. Ils sont considérés dans l'état normal du chrétien. Et il est rappelé, et ils sont exhortés alors à marcher d'une telle manière. C'est pourquoi l'exhortation va suivre. Et l'apôtre, alors, se retrouve, on peut dire, dans l'état d'esprit, ce qui occupait sa pensée, dans le début du chapitre 2, tout en disant qu'il y avait quelques consolations, prier, faciliter ce soulagement d'amour, etc., il pouvait dire « Rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée, ayant un même amour, en étant d'un même sentiment, pensant à une seule et même chose. » Il a développé tout ce qui était maintenant notre part, ce qui est notre espérance, tournant nos regards ainsi à la fois vers un Christ ici-bas, humilié, connaissant l'abaissement, mais maintenant glorifié dans le ciel, et on regarde vers lui par conséquent, nous voyons comment sur cette terre, dans un cas particulièrement inquiétant pour l'apôtre, appliquer ce que il sait qu'il vient être placé dans lui. C'est-à-dire Christ glorifié ici-bas dans les siens, et les siens jouissant de lui ensemble. Il avait pu dire, soyez tous ensemble les imitateurs, tous ensemble, collectivement, non pas seulement individuellement. Alors, voici, j'ai dans ma pensée, j'ai dans mon cœur quelque chose qui est pénible, qui est douloureux quand je pense à vous. Ma joie, cette joie dans laquelle je veux que vous soyez pleinement de votre côté, est un peu troublée, elle n'est pas vraiment accomplie. Il faudrait que vous soyez vraiment dans le même sentiment. Et il prend ici directement les circonstances dans lesquelles deux sœurs se trouvaient et qu'il va exhorter à être effectivement d'un même sentiment, d'une même pensée, en tant qu'une seule et même chose. S'il redescend ainsi, si l'on peut parler ainsi, du ciel sur la terre, c'est bien pour nous enseigner ce qu'un chrétien céleste est appelé à manifester ici-bas, et d'abord dans son comportement avec ceux qui sont les objets du même amour, ayant la même espérance.
L'apôtre exhorte les frères à Philippe, frères bien-aimés, ardemment désirés, ma joie et ma couronne, à demeurer ainsi ferme dans le Seigneur. Quand l'apôtre a écrit aux frères à Corinthe, à la fin de sa première épître, il dit ceci, « Veillez, tenez ferme dans la foi, soyez âmes, affermissez-vous. » Tenez ferme dans la foi et puis affermissez-vous. Il n'y a pas seulement le côté passif de l'exhortation, être ferme, mais il y a une activité à manifester dans cette fermeté qui est exprimée par le verbe « s'affermir ». Affermissez-vous. à l'égard des frères à Thessalonique, auxquels l'apôtre peut dire tout son amour et tout son attachement, il emploie les mêmes termes qu'ici pour les frères à Philippe, quand il leur dit « ma joie et ma couronne », on retrouve ces mêmes termes dans la première épître, au chapitre deuxième, à la fin, « quelle est notre espérance ou notre joie ou la couronne dont nous nous glorifions, n'est-ce pas bien vous devant notre Seigneur Jésus à sa venue ?» À l'égard de ses frères qui lui étaient très chers, il avait quelques craintes. Il craignait que ses frères ne fussent plus fermes comme ils l'étaient au début. Timothée avait donc été envoyé à Thessalonique et il était revenu. Il avait pu donner de bonnes nouvelles concernant les frères, ses frères. Alors l'apôtre peut dire « Ah, vous tenez ferme, combien heureux je suis !» Il dit même « Maintenant nous vivons si vous tenez ferme dans le Seigneur ». Qu'est-ce à dire cela? Eh bien que cette exhortation à tenir ferme est adressée à une assemblée où il y avait beaucoup de choses qui laissaient à désirer, où la vie d'assemblée n'était pas du tout réalisée selon la pensée de Dieu. Et puis cette même exhortation, elle est adressée à des assemblées comme à Philippe ou à Thessalonique, où alors la vie d'assemblée était réalisée d'une façon fort heureuse à la gloire du Seigneur. Eh bien, qu'il s'agisse d'assemblées ne marchant pas à la gloire du Seigneur, qu'il s'agisse au contraire d'assemblées marchant à la gloire du Seigneur, toujours nous avons besoin de cette exhortation-là. Demeurez ferme, soyez ferme dans la foi. En tout temps, nous avons besoin d'une telle exhortation. Il suffit de peu de choses pour que nous soyons éloignés du chemin de la fermeté. Il suffit de très peu de choses. On connaît des influences néfastes qui ont agi sur certains et qui, à un moment donné de leur vie, ces influences les ont éloignés du chemin de la vérité. Ils se sont franchement élargi et par conséquent éloigné de la pensée de Dieu. On a pu voir des croyants étant caractérisés par la fermeté durant tout un temps de leur vie, puis à un moment donné, voilà, sous des influences néfastes, on abandonne insensiblement ce chemin de la fermeté. Nous en avons donc toujours besoin, les uns et les autres, toujours, dans quelque état que nous soyons, individuellement, collectivement, devant Dieu, toujours, nous avons besoin de cette exhortation, frère bien-aimé, ardemment désiré, demeurez ferme.
Aide quand nous savons que cette expression signifie littéralement rester debout, fermement debout. Alors ça veut dire être dans une position sans pouvoir être ébranlé. Et c'est bien important à voir que l'apôtre Paul utilise cette expression, cette exhortation, sept fois dans ses épîtres, au moins sept fois. Et en général, à la fin d'une épître. Et dans tous ces cas différents, nous voyons que le contexte est bien différent. Et alors, cette exhortation a aussi une signification un peu différente. Peut-être nous pouvons brièvement voir ces exhortations de l'apôtre et alors voir aussi dans quel contexte il emploie cette expression ici en Philippiens chapitre 4. Nous avons vu déjà ce verset en 1 Corinthiens 16. Et là, nous avons vu, verset 13, que c'était important de tenir ferme dans la foi. C'est la même expression, tenez ferme ou demeurez ferme. Puisque nous savons que la foi était menacée, quand nous pensons au chapitre 15, nous savons qu'il y avait ceux qui niaient la vérité de la résurrection. Alors pour nous, il est nécessaire de tenir ferme dans la foi. Ça veut dire dans la vérité chrétienne que nous avons embrassée par la foi.
tenez ferme sans être ébranlés dans notre foi par de faux docteurs. Et alors, deuxièmement, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, voilà un autre problème qui menaçait les croyants. Et ça, c'était leur liberté chrétienne. Il y avait ceux de faux docteurs qui voulaient leur enseigner de se mettre sous la loi et de pratiquer la circoncision. Alors, ils avaient à apprendre, encore une fois, leur liberté chrétienne. Chapitre 5, verset 1, « Christ nous a placés dans la liberté et nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme. » Alors ici, c'est demeurer ferme dans la liberté chrétienne et de n'accepter aucune loi sauf la loi de Christ, comme nous trouvons cette expression dans le chapitre 6. Et alors, Éphésiens, chapitre 6, c'est encore une fois la même expression dans un autre contexte. Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, etc. » Ici, nous savons que le sujet de cet épître, c'est notre position, aussi la position de notre Seigneur dans les lieux célestes. Et au lit. Alors ici, c'est demeurer ferme dans la liberté chrétienne et de n'accepter aucune loi sauf la loi de Christ, comme nous trouvons cette expression dans le chapitre 6. Et alors, Éphésiens, chapitre 6, c'est encore une fois la même expression dans un autre contexte. Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayant saint vos reins de la vérité, etc. » Ici, nous savons que le sujet de cet épître, c'est notre position, aussi la position de notre Seigneur dans les lieux célestes, et aussi nos bénédictions là-haut. Alors ici, il faut maintenir cette position céleste. On pourrait dire que tenir ferme, ça veut dire maintenir sa position chrétienne pratiquement. Alors ici, les lieux célestes sont comme le pays promis, le pays de Canaan. Alors ici, nous voyons un peuple dans la possession de ce pays. Et maintenant, il faut défendre ce pays promis. Il faut défendre la position et les bénédictions que nous avons dans les lieux célestes. Alors Colossiens, chapitre 4. Ici, c'est un peu moins clair en français, mais littéralement, nous trouvons cette expression là aussi, dans le verset 12, Colossiens 4, verset 12, « Épaphras, qui est des vôtres, esclaves du Christ Jésus, vous salue, combattant toujours pour vous par des prières, afin que vous demeuriez, et maintenant je le change un peu, que vous demeuriez ferme, étant parfait et bien assuré dans toute la volonté de Dieu. » Et ce qui est la volonté de Dieu, nous le trouvons dans le chapitre 1. Et c'est que Dieu veut que nos regards soient dirigés vers toutes les gloires, toute la personne glorieuse du Fils, de son amour. C'est sa volonté pour notre vie pratique, notre vie chrétienne. Alors il faut tenir ferme dans cette position. Et alors 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Verset 8, car maintenant nous vivons si vous tenez ferme dans le Seigneur. Alors, quelle était l'exhortation pour les Thessaloniciens? C'était qu'ils avaient été convertis vers Dieu et qu'ils étaient attendant le Seigneur du ciel, le Seigneur Jésus. Alors, dans cette attendance, il a fallu être ferme, tenez ferme, dans cette position de servir Dieu en attendant son Fils. Et aussi dans le deuxième épître, chapitre 2, verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par parole, soit par notre lettre. » Ici, c'est la vérité de la venue du Seigneur et aussi du jour du Seigneur. Il y avait ceux qui avaient essayé d'ébranler la foi et la tendance de ces croyants. Alors, il a fallu tenir ferme, demeurer ferme
dans la foi, dans la vérité que l'apôtre Paul leur avait enseignée. Et alors à la fin, dans notre chapitre Philippiens 4, c'est aussi tenez, demeurez ferme. Et ici, c'est comme l'apôtre Paul. Il devait être ses imitateurs. Alors lui, il était un homme, comme nous l'avons entendu à la fin des expériences chrétiennes ici-bas, et ses regards dirigés vers le ciel où se trouvait la personne glorifiée du Seigneur Jésus. Alors ici, il s'est tenu ferme dans cette attitude, ayant les yeux dirigés vers le ciel où se trouve le prix céleste, la personne glorifiée, notre Seigneur Jésus, à la droite de Dieu. Alors il faut tenir ferme dans beaucoup de respect, chers amis, mais ici spécialement, étant ici bas sur la terre, ayant le regard dirigé fermement vers le Seigneur Jésus, sans pouvoir être ébranlé dans cette position.
Après avoir tout surmonté, après avoir combattu, tenir ferme, on n'en a jamais fini avec l'ennemi. Et il faut demeurer ferme. Alors, dans les différents passages qui viennent de nous être présentés, la foi, dans la foi, dans la liberté, la vérité, la saine doctrine, l'enseignement de Paul, deuxième épître aux Thessaloniciens. Et alors, dans deux passages, ces choses, nous avons, comme cela vient de nous être rappelé, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Cela a été dit dans le premier épître aux Thessaloniciens, à ces jeunes croyants, aux chrétiens, cette jeune assemblée thessalonique qui avait déjà à subir des persécutions et que l'apôtre a encouragé et que l'apôtre était heureux d'entendre à leur sujet qu'il tenait ferme. Alors tenait ferme dans le Seigneur. Et ici, dans le Seigneur. De même que réjouissez-vous dans le Seigneur, tenez ferme dans le Seigneur. La personne du Seigneur. Seigneur, considérez-nous. Ne cessons pas de le rappeler dans cet épître aux Philippiens, tout à la fois dans son abaissement et dans ce qui a été son corps d'abaissement, mais corps d'abaissement dans la perfection de son humanité, et le Christ glorifié d'autre part dans le ciel, dans le Seigneur.
Est-ce que ce n'est pas, du reste, une expression assez caractéristique de cet épître de l'expérience chrétienne bienheureuse dans le Seigneur? Est-ce qu'on ne peut pas dire que dans l'épître aux Philippiens, nous trouvons particulièrement souvent cette expression dans le Seigneur? Dans la deuxième partie, pour ne citer que cette portion de l'épître aux Philippiens, la deuxième partie du chapitre deuxième, au verset 19e, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Au verset 24e, j'ai confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai vous voir bientôt. L'exhortation du verset 29, quand il est question de recevoir Épaphrodite, recevez-le donc dans le Seigneur avec toutes sortes de joie. L'exhortation du début du chapitre 3e, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, comme on vient de le rappeler en rapport avec le chapitre 4e. Et puis alors, dans notre premier verset, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, est-ce que cette expression dans le Seigneur n'exprime pas cette communion dans laquelle constamment vivait l'apôtre Paul avec le Seigneur, et tout ce qu'il faisait, c'était dans le Seigneur, envoyez un serviteur comme Timothée, j'espère dans le Seigneur vous envoyer un tel serviteur. Expression de la communion de l'apôtre avec son Seigneur, agissant dans un accord parfait avec la volonté du Seigneur. Est-ce que ce n'est pas là une des caractéristiques de l'expérience chrétienne heureuse, telle que nous en avons le tableau merveilleux dans cet épître aux Philippiens.
Car en effet, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Un exemple saisissant de quelqu'un qui a tenu ferme, c'est sans doute Moïse. Dans des circonstances particulièrement difficiles, ayant affaire avec la colère du roi, avec tous les dangers que cela comportait, l'Épître aux Hébreux nous dit « Il ne craignit pas la colère du roi, car il tint ferme. » Et quel était le secret pour Moïse à cette fermeté inébranlable, dans des conditions si dramatiques même? Il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. Ses regards étaient fixés sur Christ. Déjà pour Moïse, c'était dans le Seigneur qu'il puisait cette fermeté. Il tint ferme comme voyant celui qui est invisible. D'autre part, nous avons, étant ferme, à tenir ferme ce que le Seigneur nous a confié. Et il est bien évident que nous ne pouvons pas tenir ferme dans nos mains le trésor que le Seigneur nous a confié si nous ne sommes pas fermes nous-mêmes, comme il vient d'être présenté dans ces différents passages. Étant ainsi fermes dans le Seigneur, nous serons à même, selon l'enseignement, l'avertissement, l'exhortation à Philadelphie, tiens ferme ce que tu as, ce que j'ai placé, ce trésor si précieux que j'ai placé dans tes mains, tiens-le ferme, afin que personne ne prenne ta couronne.
Non, il est dit aux résidus de Thyatire, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et si l'expression est de tenir ferme, se trouve fréquemment dans les épîtres de Paul, on la retrouve donc ailleurs aussi, et avec cette pensée de tenir ferme quelque chose. Dans l'épître de Pierre, la deuxième épître de Pierre, à la fin de l'épître, au verset 17, il y a une mise en garde de l'apôtre Pierre. Vous donc, bien-aimés, sachant ces choses à l'avance, prenez garde, de peur qu'étant entraîné par l'erreur des pervers, vous ne veniez à déchoir de votre propre fermeté. Nous risquons, même en l'ayant tenu ferme peut-être un moment, de déchoir de cette fermeté que nous devons garder, et cela par la croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, pour tenir ferme dans le Seigneur, il nous est nécessaire de reconnaître ce que le Seigneur lui-même met à notre disposition. Et entre autres choses, ce qu'il met à notre disposition, c'est le fait que nous ne sommes pas, d'une manière générale, il y a des exceptions et le Seigneur en tient compte et s'en occupe, mais appelés à marcher, à combattre, à tenir ferme ensemble. Trouvons, par la grâce de Dieu, les uns dans les autres, dans les diverses manifestations, ou les diverses opérations plutôt, de la grâce et de l'Esprit de Dieu en nous, un capital commun que nous sommes appelés à accroître chacun de notre côté pour y puiser ensemble, de sorte que nos expériences, nos épreuves, nos tribulations, nos consolations dans le Seigneur, en Christ, mais se trouvent d'autant plus doucement éprouvées et fortement éprouvées en même temps que nous avons cela et nous y puisons en commun. qu'on est ferme dans le Seigneur. Or, c'est malheureusement dans nos rapports les uns avec les autres que manquant et de foi et de grâce et de toutes ces qualités de débonnaireté, d'humilité, de bonté dont le Seigneur faisait preuve à l'égard de ses disciples, desquels il aurait eu tant à se plaindre. Mais ce sont nos manquements dans tout cela qui viennent créer des situations pénibles, des situations humiliantes et des situations néfastes pour le témoignage aussi bien que pour la vie commune. Tenez ferme dans le Seigneur, bien-aimé, ah si, et nous réalisions que nous sommes tous au même titre des brebis du bon berger et des enfants de Dieu aimés du même amour, aimant les frères et les sœurs parce que nous avons le même Père. Ah, et comme les choses seraient autres, mes frères bien-aimés, ardemment désirés, l'apôtre lui débordé d'amour pour tous ses chers Philippiens et d'autres. Et alors voici, il y a particulièrement là quelque chose de pénible, deux sœurs, peut-être deux sœurs dans la foi, dans la chair peut-être, mais en tout cas, de chrétiennes de cette assemblée de Philippe qui étaient en désaccord. L'apôtre pouvait intervenir avec son autorité et connaissant et étant enseigné par l'Esprit quant à ces choses, il pouvait régler avec autorité la situation et dire quels que soient vos sentiments l'une avec l'autre, et quels que soient vos torts l'une avec l'autre, je vous ordonne de marcher ensemble. C'est bien souvent le ton que nous prenons les uns à l'égard des autres, soit individuellement, collectivement. L'apôtre, lui, parle avec douceur. Plus que cela, il se met aux pieds de ses sœurs. Je supplie Saint-Tiche. Il est probable qu'il était à même d'apprécier ce qu'il en était et qu'il pour le bien remettre devant l'une, devant l'autre, le tort de chacune. Pas une allusion à la réalité des torts. Ah, c'est celui-ci qui a tort, c'est celui-ci qui est dans le vrai. Et on prend parti pour les uns, pour les autres. Je supplie Évodie, je supplie Saint-Tiche. Il ne les englobe même pas dans la même supplication. Il a une supplication pour l'une, pour l'autre, au même degré. Je les supplie d'avoir alors une même pensée dans le Seigneur. Et cela est nécessaire pour que vous teniez ferme ensemble, toutes les deux, et que vous aidiez les autres, vous qui avez combattu déjà dans l'Évangile. Peut-être se disputaient-elles à propos même de leur service. Cela ne nous est pas dit. Et la parole là-dessus nous enseigne cette, disons, cette discrétion, pour parler humainement, ce silence sur des faits qui ne seront jamais connus. Je ne l'ai jamais connu sur la terre. La parole nous dit que ces deux sœurs étaient en désaccord, mais nous ne saurons jamais pourquoi. Il y a là des enseignements d'une très grande portée pratique, une très grande portée morale, et nous sentons tous bien que la parole de Dieu pénètre et nos cœurs, nos pensées, nos esprits à cet égard.
Sera balayé tôt ou tard, même si à l'origine il ne se trouve qu'une petite fissure. Et nous devons bien vous le dire, chers amis, en général, dans notre pays, nous avons connu un barrage emporté de toutes pièces. Et à partir de petites fissures telles que celles que nous considérons cet après-midi devant nous, à notre humiliation, à notre honte, car nous avons des exhortations, des enseignements de la parole dont nous avons à tenir compte. Et par conséquent, les oublier, les méconnaître, nous conduit au-devant des pires désastres, tout en commençant par de petites choses, comme il en fut dans les circonstances de notre pays que je viens de rappeler. D'autre part, on a souvent cité le cas de Néhémie, au chapitre 4 de son livre. L'ennemi profite toujours de la division, de la séparation, du fait que les saints sont éloignés l'un de l'autre, moralement parlant. Et nous n'allons pas faire un long commentaire, mais nous rappelons ce qui a été souvent dit à l'égard de cette exhortation, cet appel de Néhémie dans le chapitre 4, au verset 19 de son livre. « Je dis aux nobles et aux chefs, aux nobles et aux chefs d'abord, et au reste du peuple. » Il semble que Paul ici, à l'égard de ce fait douloureux dans l'assemblée de Philippe, fait appel aux nobles et aux chefs, à ses compagnons, pour qu'ils apportent une aide efficace, bienfaisante, pour régler ce différend, avant qu'il prenne plus d'ampleur et qu'il risque d'entraîner des maux beaucoup plus graves. Mais ils sont là en germe, d'où le danger, et ce n'est pas quand le barrage est emporté, que nous pouvons encore faire quoi que ce soit. C'est trop tard. Je dis aux nobles et aux chefs et au reste du peuple, l'ouvrage est grand, étendu, et nous sommes épars sur la muraille. L'ennemi va profiter du fait que nous sommes épars sur la muraille, que nous ne sommes pas groupés, que nous ne sommes pas unis, pratiquement. Nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Alors quel est le remède ? Bien, le remède est dans le verset suivant. Rassemblez-vous vers nous. Dans le rassemblement, c'est-à-dire dans l'unité pratique maintenue, voilà où se trouve la force du peuple de Dieu. Satan sait bien que si nous sommes épars sur la muraille, si nous sommes divisés, Satan sait bien qu'il trouve là un terrain des plus favorables pour attaquer le peuple de Dieu et l'amener dans cet état de sujétion. Le but, c'est le but qu'il poursuit toujours.
Une raison spéciale qu'il y avait des luttes entre ces deux sœurs, puisque dans le verset 3, nous lisons, « Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, etc. » Alors apparemment, ces deux sœurs aussi avaient combattu dans l'Évangile. Elles appartiennent apparemment à celles qui ont combattu avec moi. Alors peut-être on peut dire que dans ces combats avec l'apôtre, ils avaient eu leur différence de pensée. Et ça rend la chose encore plus sérieuse, puisque dans les choses, quand nous nous occupons des choses charnelles, ça va sans dire que nous ne sommes pas dans la même pensée dans le Seigneur. Mais quand on est des compagnons de l'apôtre, quand on combat avec lui dans l'Évangile, quand on travaille alors dans les choses spirituelles, combien c'est sérieux quand on n'est pas de même pensée comme ces deux sœurs. Je ne veux pas dire que ces deux sœurs avaient annoncé l'Évangile aussi, naturellement pas. Mais il y a beaucoup de manières par lesquelles aussi les sœurs peuvent combattre
par exemple par la prière, ou aussi par des travaux qui sont bien pour eux, pour elles, c'est bien possible pour eux aussi, pour elles aussi, à combattre dans l'Évangile. Mais là spécialement, nous trouvons l'ennemi des âmes pour nous confondre, pour introduire des choses, des conflits entre des frères, entre des sœurs comme ici. Et ça, c'est encore plus sérieux de n'être pas d'une même pensée dans le Seigneur. D'être d'une même pensée, ça ne veut pas dire que nous avons des opinions qui sont pareilles sur toutes choses. Il peut y avoir des détails dans les Écritures où on n'est pas entièrement d'accord, où les opinions sont différentes. Mais ici, ce n'est pas dit d'une même opinion, mais d'une même pensée. Et au fait, ça veut dire d'une même attitude dirigée vers le Seigneur. Et ça, c'est tout autre chose. Même quand s'il y a des choses où les frères ne sont pas tout à fait d'accord, des choses quant à l'interprétation des Écritures, quand même, ils peuvent être d'une même pensée. Ça veut dire d'une pensée fixée sur le Seigneur avec le seul désir, pas se combattre, mais avec le seul désir de le servir et de glorifier leur Seigneur. Et ainsi, ils peuvent avoir la même pensée, la même attitude, la même inclination vers le Seigneur glorifié. Et ça, c'est notre devoir, spécialement dans l'œuvre du Seigneur, comme nous le voyons ici.
Déjà dans le début du chapitre 2, qui a été rappelé au début de la réunion, si donc il y a quelque consolation en Christ, si quelque soulagement d'amour, si quelque communion de l'esprit, rendez ma joie accomplie en ceci, que vous ayez une même pensée. Et quand on entend cette exhortation du cher apôtre, et qu'au début de cette épître, et qu'à la fin de cette épître, il faut que l'apôtre signale ce manque de communion, cette communion interfraternelle compromise entre deux sœurs, Évodie et Saint-Yves, cela est certainement pénible, très pénible. Et comme notre frère, en nous parlant de l'épisode de la vie de Néhémie, en a relaté l'importance de deux sœurs qui n'ont pas la même pensée, combien cela peut avoir les conséquences les plus funestes pour tout l'ensemble du témoignage, déjà dans une localité, et ensuite cela peut se propager dans d'autres localités. En effet, il y aura toujours dans des cas semblables, qui paraissent menus au début, des frères et des sœurs qui prendront parti pour Évodie, et il y aura des frères et des sœurs qui prendront parti pour Saint-Yves. Et en effet, cela est encore plus grave quand il s'agit du combat de l'œuvre du Seigneur. Et on se rend compte combien cette chose qui, au premier abord, peut nous apparaître comme étant futile, cette chose-là, cette mésentente entre deux sœurs, peut être très lourde de conséquences. Au verset troisième, est-ce qu'il est possible de savoir à qui l'apôtre s'adresse quand il dit « Oui, je te prie, toi aussi, vrai compagnon de travail, aide celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile. » Peut-on savoir, est-ce que c'est un peu osé que de vouloir dire qu'il est question de tel ou tel serviteur?
Toujours que gagner quand nous nous en tenons à ce que dit la parole. C'est à travers toutes les Écritures, toute la Bible, que nous sommes en danger de vouloir lui faire dire ce qu'elle ne dit pas et de dire nous-mêmes notre pensée à son égard. Nous ne pouvons qu'être toujours très prudents et dans ce domaine, et rester avec nos incertitudes. Et si l'Esprit de Dieu n'a pas trop le don de nous donner le nom, nous pouvons bien penser, effectivement, apparemment,
qu'il s'agit d'Épaphrodite, celui dont il a parlé comme étant des vôtres, des Philippiens, par conséquent quelqu'un qui était venu d'ailleurs apporter avec un don de la part de l'Assemblée bien des messages de ces Philippiens, et qui allait retourner vers eux, portant les messages de l'apôtre, et qui peut-être même a écrit, on peut multiplier les peut-être, ou même les probables, ou les apparemment, mais gardons toujours cette réserve. Si Dieu n'a pas trouvé bon de nommer expressément Épaphrodite, et nous invite quand même tout à penser à lui, laissons la chose là. De même, Clément, peut-être dans les traditions ecclésiastiques, on retrouve ce nom de Clément, et on lui attribue peut-être même des écrits qui n'étaient pas les siens, c'est peut-être un autre Clément, mais voilà, nous avons ce nom, et sans connaître autrement la personne, nous savons que son nom est le nom d'un compagnon d'œuvre. L'apôtre en avait beaucoup, par la grâce de Dieu, et ce nom est dans le livre de vie.
Dans les intentions du Saint-Esprit, de ne pas nous donner toute la révélation. Pardon. Allez.
Simplement, et si quelqu'un a un autre passage de l'Écriture nous renseignant davantage sur à la fois Évodie, Saint-Tiche et Épaphrodite, et enfin le compagnon d'œuvre, le compagnon de travail et les compagnons d'œuvre sont heureux d'entendre. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ce qui, je pense, ne signifie pas que tout nous soit ouvert, et que, précisément parce qu'il est notre guide, mais au contraire, précisément parce qu'il est notre guide, le Saint-Esprit sait où il faut nous arrêter. C'est un grand chrétien des siècles passés, c'est Calvin, et qui écrit quelque part, c'est faire injure au Saint-Esprit que de penser que nous pouvons aller au-delà de ce qu'il nous révèle. C'est une pensée profonde.
Ce qui mérite peut-être d'être retenu, c'est que, à l'égard de ce compagnon qui, comme on vient de l'entendre, peut-être Épaphrodite, Paul dit dans ce verset 3, c'est peut-être la seule fois où il emploie cette expression « vrai compagnon de travail ». Et mon compagnon d'armes. Mais, quel qu'il soit, si c'est lui, évidemment, il faut retenir ce que nous venons d'entendre quant au fait qu'il n'est que probable qu'il s'agit d'Épaphrodite, et nous ne pouvons pas aller au-delà. Il est quand même remarquable que pour aborder ce détail si important, Paul appelle ce serviteur de Dieu, quel qu'il soit, compagnon de travail. C'était un travail peut-être difficile, douloureux. Compagnon d'œuvre nous introduirait dans le travail de Dieu en général. Mais ici, c'était un travail particulier, un travail de sacrificateur, difficile sans doute, et qui demandait beaucoup de dépendance et d'abnégation.
Puisqu'il était le compagnon d'armes. Sur deux. Et les noms sont dans le livre de vie. Nous ne savons pas tous les noms qui sont dans le livre de vie. Et ce qui peut les accompagner, je veux dire, ce qui a pu être et sera retenu de leur travail ici-bas. Mes autres compagnons d'œuvre, nous en connaissons quelques-uns dans les divers épîtres, mais non pas tous. Et puis, dans l'histoire du christianisme, que de combattants, que d'ouvriers anonymes, ou ignorés en tout cas, ignorés, mais dont les noms sont dans le livre de vie. On aime lire cette expression.
Non, on suppose Épaphrodite, mais la parole de Dieu ne dit pas. L'absence de nom peut peut-être nous montrer que nous sommes tous, nous, lecteurs de la parole de Dieu, concernés par cette exhortation. Nous sommes tous invités à aider, et puis une fois ou l'autre, peut-être que nous aurons à rencontrer un tel travail délicat, un tel travail qui n'est pas agréable, certainement un travail douloureux. Peut-être que par là même, il y a là une volonté de l'Esprit de Dieu qui veut que nous nous sentions tous concernés par cette exhortation, par cet appel. Aidez celles qui ont combattu, dit l'apôtre, avec moi dans l'Évangile. Un autre frère, M. Quéclin, qui aimerait exprimer une pensée.
Simplement ceci, que il a dû être humiliant pour ces deux sœurs de se voir ainsi désignées publiquement dans la lettre écrite aux Philippiens, de même qu'un archipe, à la fin des Colossiens, se trouve exhorté publiquement, puisque la lettre était certainement lue en public à l'Assemblée, à prendre garde au service qu'il avait reçu dans le Seigneur. Et ses sœurs sont ainsi désignées publiquement avec leurs différends. Mais en même temps, de voir l'apôtre se mettre à leurs pieds et les exhorter individuellement, parce que l'une pouvait écouter et l'autre pas, s'adresser à l'une et s'adresser à l'autre en les suppliant. Mais en même temps que cette humiliation, il y a ce rappel public qu'elles avaient combattu dans l'Évangile avec l'apôtre. Comme quoi la grâce est là, qui mentionne quelque chose de fâcheux, mais aussitôt s'empresse de présenter quelque chose qui n'a pas été oublié du Seigneur ni de l'apôtre.
Oubliez ce que vous avez fait, est-il dit aux Hébreux.
Debout. critique à l'égard de l'apôtre qui, sans doute, doit dire publiquement une chose qui n'est pas très agréable pour la chair, pour ses sœurs, mais en même temps, ne manquant pas de rappeler ce qu'elles ont fait. On nous permettra d'ajouter un détail semblable et combien intéressant, et en même temps exemplaire pour nous. Dans le chapitre 19 du deuxième livre des Chroniques, il y a un verset bien remarquable et qui fait le pendant de ce que nous avons entendu rappeler, souligné par notre M. Quéclin. Josaphat s'est hélas compromis dans des associations bien malheureuses. Et le Seigneur doit le reprendre. Et le prophète vient vers lui en lui disant au verset 2, « Jéhu, fils de Hanani, le voyant, sortit au devant de lui et dit au roi Josaphat, « Aides-tu aux méchants et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? À cause de cela, il y a colère sur toi de la part de l'Éternel. » Voilà une répréhension bien sévère qui devait descendre, pénétrer jusqu'au fond de la conscience de ce roi pourtant fidèle, mais qui s'est laissé surprendre. Mais le prophète, agissant de la part de Dieu, va-t-il en rester là ? Il y a colère contre toi, tu as aidé aux méchants, tu as commis des choses que l'Éternel réprouve entièrement. Mais remarquons le verset 3 comme il vient adoucir et en même temps faire pénétrer davantage le reproche. Cependant, Dieu ne l'oublie pas. Dieu n'oublie pas, l'apôtre n'oublie pas ce que ses sœurs ont accompli en communion avec lui dans le travail qu'elles avaient fourni. Cependant, il s'est trouvé de bonnes choses en toi. Dieu n'oublie pas le cependant.
Terrible que nous aurons jusqu'à la fin et qui est justement celui qui produit des fruits, des choses si humiliantes, c'est la chair en nous. Que nous laissions agir la nouvelle nature que nous avons. Que nous goûtions la communion avec Dieu, et bien naturellement, entre nous, se reproduira, se réalisera une communion heureuse et bénie. Et le témoignage ne le gagnera qu'en force. Comment puis-je tenir ferme ? Ce n'est pas avec mes propres forces. D'abord, premièrement, et je crois que c'est un danger actuel, il faut avoir conscience des dangers qui sont là. Et quand je perds contact avec Dieu, quand je perds contact avec les Écritures, la première chose que je perds, c'est le discernement. Et je puis dire que tout va bien, qu'alors les dangers, et les dangers sont là très nombreux, et très dangereux. C'est pourquoi nous avons besoin ainsi de veiller constamment à cette communion avec Dieu. Le fait aussi de tenir ferme une vérité suppose deux choses. C'est que d'abord, premièrement, j'en jouis. Et elle est du prix pour mon cœur. Et deuxièmement, c'est que et c'est une conséquence, il faut que je la vive, Combien donc c'est important de veiller à ce constamment, à ce que la chair soit jugée en nous. Et nous avons ainsi besoin de réaliser dans la dépendance du Saint-Esprit cette marche fidèle, mais dans une sainte crainte, dans la sainte crainte de Dieu. Bienheureux celui qui craint continuellement, qui a conscience des dangers qui sont là, qui a conscience qu'il n'a point de force en lui, et qui sait en même temps que toutes les ressources sont en Dieu, et que Dieu demeure fidèle. que nous puissions ainsi réaliser dans ces temps de la fin, que nous puissions réaliser davantage pour nos cœurs le prix des vérités qui nous ont été révélées, pour que nous puissions être gardés dans ces vérités et que nous puissions ainsi tenir ferme, sachant très bien que nous avons affaire avec un ennemi qui ne désarme jamais, Et cet ennemi se sert de deux choses, qu'il sait exploiter d'une manière subtile. Il se sert du monde. Quel mal le monde a fait dans l'Assemblée. Quel mal. Et il se sert du moi. Personne ne nous connaît, ou nous ne nous connaissons pas comme Satan nous connaît. Il nous connaît depuis la chute.